affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, chers auditeurs, bonjour et merci d'être à l'écoute de Canal Académie pour notre rendez-vous hebdomadaire. L'émission de ce jour nous conduira sur les chemins de la Renaissance italienne, à Florence mais aussi à Sienne, à l'occasion de la magnifique exposition du musée Condé à Chantilly, Fra Angelico Botticelli, chef-d'œuvre retrouvé, une exposition visible jusqu'au 4 janvier 2015 dans les salles de l'ancien Jeu de Paume. À la lumière des dernières découvertes historiques et scientifiques, le musée Condé met en effet à l'honneur 30 pièces maîtresses de ses collections, associées à 9 autres tableaux de prestigieux musées internationaux. D'émerveillement en émerveillement, le visiteur part ainsi à la rencontre de certains des plus grands maîtres du Quattrocento. On compte parmi eux, nous l'avons compris, Fra Angelico et Botticelli, mais aussi Ghirlandaio, Piero di Cosimo, Filippino Lippi, Léonard de Vinci et d'autres encore. Les artistes du Trecento ne sont pas en reste, avec notamment Maso di Banco, disciple de Giotto, et Giovanni dal Ponte, représentant tardif du gothique international. L'ensemble offre, vous l'imaginez au regard, un extraordinaire tour d'horizon de la création picturale italienne au XIVe et surtout au XVe siècle, à travers des œuvres de nature très différentes. Alors panneaux de retable, tableaux autonomes, dessins, enluminures, mais aussi mobilier, à l'exemple des Cassoni, précieux coffres de mariage, ornés de peintures décoratives. 39 œuvres au total, ponctuant une scénographie, nous allons le voir, particulièrement inédite. Entre idéal et naturalisme, transcendance et humanisme, le langage artistique de la Renaissance s'offre ici à nous sous le signe d'une inaltérable fraîcheur et n'en finit pas de nous fasciner. Pour nous guider, nous éclairer à travers ce singulier voyage dans l'histoire de l'art, nous avons la chance de recevoir dans notre studio Nicole Garnier, conservateur général du patrimoine chargé du musée Condé et commissaire associé de l'exposition. Nicole Garnier, bonjour.
Bonjour.
Et merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation.
Merci à vous.
Nicole Garnier, pourquoi parler ici de chefs-d'œuvre retrouvés dans la mesure où 30 des pièces exposées appartiennent déjà aux collections permanentes? Qu'entendez-vous en fait par retrouver?
Alors en fait, le but de l'exposition, c'était de recomposer des ensembles qui ont été dispersés la plupart du temps au XIXe siècle par le commerce d'art. Je m'explique, de grands tableaux religieux, de grands polyptiques qui étaient placés sur les autels des églises en Toscane au XVe siècle, ont très vite été démontés, déposés dans des sacristies, laissés de côté. Et au XIXe siècle, les historiens d'art ont retrouvé ces chefs-d'œuvre et le commerce d'art s'en est emparé. Et ces panneaux ont été découpés, démontés, qu'il s'agisse donc de tableaux religieux, d'églises, mais aussi, comme vous l'indiquiez tout à l'heure, d'œuvres profanes, comme par exemple les panneaux de Cassone, ces Cassone donc, qui étaient offerts aux jeunes mariées florentines de la meilleure société au XVe siècle. Il y en avait deux en général, on offrait aux jeunes femmes ces coffres par père, on les transportait du domicile du père jusqu'au domicile conjugal, les mariés y mettaient donc les bijoux, les robes, le trousseau qui leur était offert, et sur les trois faces principales, le devant et les deux côtés, le cassone était orné de scènes liées à l'amour et au mariage, et ces panneaux ont tous été démontés, donc ce qui était des meubles sont devenus des tableaux. Donc on a fait le pari avec Michel Laclotte, l'ancien directeur du Louvre, président directeur du Louvre et grand spécialiste des primitifs italiens. On a fait le pari de reconstituer donc tous ces panneaux qui avaient été démontés, démembrés, quelquefois sciés, carrément sciés, la plupart du temps au XIXe siècle et même quelquefois déjà modifiés auparavant. Donc ça a été une longue aventure puisque l'histoire en fait a démarré il y a 11 ans. Il y a 11 ans, en 2003, nous restaurions à Chantilly, au musée Condé, une salle dédiée aux primitifs italiens, la salle que le duc d'Aumale, fils du roi Louis-Philippe et donateur de Chantilly à l'Institut de France, avait nommée le cabinet du Giotto. En effet, le principal chef-d'œuvre de cette salle, la Dormition de la Vierge, était à l'époque du duc d'Aumale attribué à Giotto. Aujourd'hui, nous l'avons rendu à Maso di Banco, son principal élève. Et donc, restaurant les 27 tableaux italiens de cette salle, nous nous sommes rendus compte, au cours de la restauration, car c'est quand on restaure les œuvres qu'on apprend des choses sur leur matérialité, on s'est donc rendu compte avec Michel Laclotte et tout le comité scientifique, qui nous aidait dans la restauration de ses œuvres, eh bien qu'un de nos petits panneaux, un petit panneau attribué à Fra Angelico et à son atelier, qui fait à peu près 15 cm par 25, qui représente Saint-Benoît au désert dans une grotte, n'était en fait qu'un fragment. Un fragment d'un ensemble beaucoup plus important, un ensemble religieux bien sûr, probablement destiné à orner un monastère donc de la Toscane du XVe siècle. Et Michel Laclotte, lorsqu'on a radiographié le tableau en vue de sa restauration, nous a dit tout de suite, là, sous le repas en bas à droite, il y avait un repas assez vilain dans un angle. La question se posait de savoir si on faisait sauter ce repas, ce qui a été fait. Car à la radiographie, on a vu en dessous tout un petit jeu de cubes, comme un village avec des maisons roses et bleues. Et en voyant ça, Michel Laclotte, tout de suite, s'est rappelé d'un tableau qui est à Philadelphie, au Philadelphia Museum of Art. Ce panneau de Philadelphie comportait aussi un village, mais tronqué en partie supérieure. Donc les deux morceaux s'ajustaient parfaitement. Donc c'était quelque chose qui avait été évoqué par certains chercheurs auparavant, mais évidemment il fallait la connaissance de Michel Laclotte pour faire le lien, pour conforter cette thèse. Et puis on est allé bien au-delà, puisqu'en 11 ans on a continué à travailler, enfin Michel Laclotte a continué à travailler avec d'autres chercheurs, puisque dans l'exposition on a 19 auteurs, hein, tant italiens que français, qui sont intervenus chacun sur l'œuvre dont ils sont spécialistes, sur l'auteur dont ils sont spécialistes. Et donc on a découvert autour de ce fragment de Fra Angelico qui était dans nos collections, que notre Saint-Jérôme ou notre Saint-Benoît, il a subi différentes identifications selon les époques, était en fait un fragment d'un panneau beaucoup plus grand, dont les autres fragments étaient à Philadelphie bien sûr, mais également dans une collection privée française, et également à Anvers, au Musée Royal des Beaux-Arts, et également à Cherbourg, au Musée Thomas-Henry, dans une grande collection qui avait été donnée à Ville de Cherbourg.
Il manquait encore...
Alors il manque un sixième fragment, ouais. C'est vrai que le tableau est encore incomplet. Donc ce qui était, d'après les spécialistes au cours du XXe siècle, ce qui était devenu un Saint-Benoît au désert est redevenu ce qu'il était à la base, c'est-à-dire une thébaïde, c'est-à-dire une scène de la vie religieuse des premiers ermites dans le désert de Thèbes, donc en Égypte, la capitale des pharaons, Thèbes. Eh bien cette thébaïde, elle est encore inachevée, puisque malgré la redécouverte de trois autres fragments qui sont venus s'ajouter aux deux que nous connaissions déjà, il y a encore une partie supérieure manquante, et j'espère que l'exposition fera ressurgir, pourquoi pas, le morceau manquant. Alors on a une petite idée de l'iconographie du morceau manquant, parce qu'il y a une mer des deux côtés, dans le fragment de Chantilly et dans le fragment d'Anvers, et donc on peut imaginer qu'il s'agit d'un Saint-Jean sur l'île de Patmos. Donc on cherche un Saint-Ermite sur une île au milieu d'une mer.
Donc une grande part de mystère qui demeure, oui. Et une enquête qui se poursuit alors.
Tout à fait. Alors ce qui était amusant quand on a découvert les fragments de la thébaïde, quand on les a rassemblés à nouveau, c'est que sur le fragment qui est à Chantilly, on a derrière Saint-Benoît qui est en prière dans sa grotte, on a un moine vêtu de noir qui au bout d'une corde laissait pendre un panier. Et ce panier, en fait, on s'est rendu compte à l'étude avec les restaurateurs que c'était un repin. Et pour cause, car le panier se trouvait sur le panneau de Philadelphie, donc quelques milliers de kilomètres plus loin actuellement. Et donc on a fait sauter le panier, et bien sûr maintenant la composition, on peut se voir à Chantilly, donc jusqu'au 4 janvier, dans toute sa continuité. Mais c'est vrai qu'il y a encore le fragment qui nous manque.
Alors pourquoi en fait cette reconstitution est-elle unique, et finalement cette exposition est-elle unique?
Ça ne peut se faire qu'à Chantilly, parce que Chantilly ne peut pas prêter ses collections. Le duc d'Aumale, Henri d'Orléans, le donateur de Chantilly à l'Institut de France, donc le cinquième fils du roi Louis-Philippe, a décidé, en donnant son château de Chantilly et toutes ses collections, le duc d'Aumale c'était le plus grand collectionneur français du XIXe siècle, il a décidé donc que ses collections ne sortiraient pas de son château de Chantilly, nous ne pouvons pas prêter les collections, et nous ne pouvons pas non plus modifier sa présentation, sauf pour 3 mois où on se permet, pour une exposition temporaire qui apporte à la connaissance des collections, de les détourner. Mais ensuite, on les remettra dans 4 mois exactement, à l'emplacement exact que le duc d'Aumale leur a désigné.
Alors, on constate quand même que les mentalités ont beaucoup changé en ce qui concerne la préservation du patrimoine, parce que si ces ensembles ont été démembrés, finalement, ce n'est pas toujours pour des raisons financières. Et il y a notamment un collectionneur auquel le musée Condé doit beaucoup, le Frédéric Rézet, je crois,
tout à fait.
Qui en son temps, parce que lui, manifestement, ça ne choquait pas, n'a pas hésité à démembrer des éléments et à les disperser dans différents musées, peut-être pour qu'on ait accès aux œuvres un peu partout en France. Mais...
Rézet, il a surtout fait œuvre de découvreur et de collectionneur. Hein. Frédéric Rézet, c'est dans les années 1850 le conservateur du cabinet des dessins du Louvre. Il va d'ailleurs, pendant l'hiver 1860-1861, vendre au duc d'Aumale Une extraordinaire collection de dessins, 363 feuilles, qui vont de la Renaissance italienne avec Parmesan, Primatis, Raphaël, jusqu'au XIXe siècle avec Ingres, en passant par le XVIIe avec Nicolas Poussin, 33 feuilles étonnantes de la main du plus grand peintre classique français, des dessins de Lorrain, Huy Durer, enfin une collection extraordinaire. Et puis, ayant pris la direction du cabinet des dessins, donc il doit séparer de cette collection, donc il a publié le catalogue. Il va ensuite devenir directeur des musées nationaux, c'est un grand historien d'art, et il va se passionner pour les primitifs. C'est un sujet qui est à la mode. Et il va bien sûr acquérir en Italie des fragments précieux. À la fin de sa vie, prenant sa retraite, il est devenu directeur des musées nationaux. Il a dans son bureau du Louvre une quarantaine de tableaux extraordinaires, dont une petite vingtaine de primitifs italiens, de très beaux tableaux d'Ingres, de très beaux tableaux de Poussin. Et le duc d'Aumale, 18 ans après, va acheter en bloc cette collection de tableaux comme il avait acheté précédemment la collection de dessins de Rézet. Donc c'est un découvreur, c'est un historien d'art, c'est quelqu'un aussi qui a permis la préservation de ces panneaux, hein, en allant les acquérir alors qu'ils étaient pour la plupart déjà découpés ou démembrés. Hein. Et le Frédéric Rézet a écrit après l'acquisition en 1879... Des tableaux primitifs, la plupart de nos primitifs viennent de Rézet. Il a écrit une très belle lettre au duc d'Aumale où il lui dit « Je me réjouis de voir que mes chers dessins vont rejoindre nos chers tableaux. »
Alors, une des spécificités de l'exposition, pour en venir un petit peu à son concept, son originalité, c'est que nous l'avons vu, elle reconstitue certains tableaux avec les éléments réels existants qu'on a pu retrouver un peu partout, dans différents musées ou dans des salles de vente, comme ça a été le cas pour la Thébaïde. Mais vous avez aussi pris le parti de reconstituer certaines œuvres de façon numérique. Alors c'est absolument éblouissant.
Merci.
Je pense notamment à un retable de Sacéta, un polyptyque qu'on doit à Sacéta, voilà. Alors le musée Condé possède un tout petit panneau.
Ouais. Le mariage mystique de Saint-François d'Assise.
Voilà, qui représente le mariage mystique de Saint-François d'Assise, qui, je ne sais pas combien il mesure, mais enfin, il est très beau.
Oh, il fait à peu près 80 cm par
voilà,
40.
Et vous restituez comme ça le visiteur, voilà, ça, vous offrez ça au visiteur, c'est la reconstitution virtuelle de tout le polyptyque. Alors c'est extraordinaire. Et puis, pour reprendre un petit peu l'expression de Malraux, mais en la détournant, n'est-ce pas un petit peu le musée imaginaire qui fait son entrée au musée?
Tout à fait. Alors, c'est un parti pris, oui, qu'on a accepté pour l'exposition, parce qu'il fallait faire comprendre aux visiteurs, qui n'est pas forcément formé à comprendre cette peinture religieuse du Quattrocento, toscan, c'est un peu austère, c'est une iconographie un peu compliquée, il fallait faire comprendre que tous nos tableaux, en fait, n'étaient pas des tableaux, c'était pour la plupart des éléments d'ensemble religieux destinés à être admirés dans les églises, destinés à enseigner aussi aux fidèles l'histoire sainte d'une part, l'histoire des saints en général pour les moines eux-mêmes. Et donc, le parti pris, ça a été d'axer sur la technologie numérique, d'avoir ces grandes reconstitutions qui permettent vraiment de comprendre ce que sont ces œuvres. C'est un choc pour le visiteur, effectivement, d'avoir à côté des œuvres originales, il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai qu'il y a 39 œuvres, 30 de nos collections, 9 prêts internationaux, qui n'étaient pas forcément faciles d'obtenir, puisque ces œuvres fragiles, qui sont des panneaux sur bois, voyagent peu, voyagent dans des caissons. Donc on n'a pas pu emprunter, bien sûr, pour le retable de Sacéta dont vous parlez, il y a 27 fragments connus, il n'était pas question d'emprunter tantôt au Louvre, tantôt à l'Ermitage de Saint-Pétersbourg, enfin aux quatre coins du monde. Ce n'était pas possible. Donc la reconstitution numérique s'imposait d'elle-même, elle a une vertu, je crois, pédagogique, alors elle a peut-être un tort, c'est qu'on est quelquefois tenté de regarder davantage la reconstitution numérique que les originaux. Donc surtout, quand on a à voir l'exposition, regardez bien les originaux, ils le méritent. Mais c'est vrai que les reconstitutions numériques permettent aussi d'aller plus loin au fond de l'image, puisqu'on fait des agrandissements, et chacune des 7 projections qui sont mises en place dans l'exposition s'arrête à un moment donné à la dimension 1 sur 1, où on peut visualiser le panneau tel qu'il était réellement présenté dans les églises.
Dans ces dimensions.
C'est aussi très intéressant pour les objets à 3 dimensions, comme les meubles. On parlait tout à l'heure des cassones. On a dans l'exposition donc un célèbre tableau de Filippino Lippi, qu'on donne aujourd'hui aussi à Botticelli, qui fut son maître, dans l'atelier duquel Filippino Lippi s'est formé. Donc ce sont des scènes de l'histoire d'Esther. Et il s'agit donc d'un élément, d'un puzzle en fait, puisqu'il y avait 2 coffres, il y avait donc 6 panneaux, 3 par coffre, et ils sont aux 4 coins du monde. Il y en a 2 à Ottawa, la Galerie Nationale du Canada. Le panneau principal, qui est le pendant d'une autre, est au Musée du Louvre. Il est donc venu à Chantilly. On n'a pas emprunté les 2 fragments d'Ottawa, la Galerie Nationale du Canada. On n'a pas non plus emprunté ceux de Rome, de la collection Pallavicini. ni de la Fondation Horn à Florence, mais on a les reconstitutions virtuelles en trois dimensions qui permettent permettent aux visiteurs de visualiser ce qu'était un coffre de cette époque.
Alors, à l'inverse, certains retables ont été épargnés et on en a aussi un magnifique exemple dans l'exposition, puisque il y en a un qui est présenté presque entier.
Oui, l'exposition s'ouvre en fait sur une typologie des objets qu'on présente dans l'exposition. Donc, il y a un grand polyptyque religieux de Giovanni dal Ponte. Donc, un tableau qui, lui, est complet, ou probablement, oui, complet. Encore qu'il y a peut-être une prédelle en dessous, on n'en sait rien. Mais enfin, en tout cas, c'est un tableau qui est un triptyque avec des tentes, des parties circulaires en partie haute, avec des pilastres sur les côtés qui sont posés chacun de trois éléments de part et d'autre. Donc, 3 et 3, 6. Au total, c'est un panneau qui aurait pu être éclaté, lui aussi, en 14 fragments. Bon, il se trouve qu'il est complet, donc ça permet aux visiteurs de visualiser ce qu'est un grand tableau religieux de la Toscane du Quattrocento. On a également un coffre de mariage complet, qui est un prêt du musée Jacquemart-André, autre fondation de l'Institut de France, qui est également dû à Giovanni dal Ponte, et qui présente des couples, puisqu'on sait que ces cassons présentaient toujours des scènes liées à l'amour et au mariage. Et on a également une enluminure, donc, qui permet d'évoquer ce qu'on appelait des cuttings au XIXe siècle, tôt maintenant, donc qui sont des livres peints et enluminés. Donc les lettrines portent généralement des petites scènes peintes à la gouache et au pinceau qui sont remarquables. Et donc ces pages des manuscrits enluminés sur parchemin ont été découpées, elles aussi pour des raisons commerciales, la plupart du temps au XIXe siècle. Le duc d'Aumale en a acheté beaucoup, comme des dessins en fait, il les montre comme des dessins encadrés. Et à l'intérieur de ces lettrines, on découvre aussi eh bien, des polyptyques religieux et on rentre à nouveau dans des églises et on évoque ce qu'étaient ces grands tableaux. Donc ça permet aux visiteurs de visualiser des ensembles complets. Et puis après, du XIVe siècle jusqu'au tout début du XVIe siècle, on fait ce parcours donc, à travers nos tableaux primitifs italiens, donc la collection de Chantilly, c'est une quinzaine de pièces hein, sur bois, avec quelques dessins aussi qu'on a sortis de nos réserves, qui proviennent pour la plupart de la fameuse collection de Frédéric Rézet, et qui permettent d'aller donc jusqu'au tout début du XVIe siècle, puisque l'exposition se termine avec un dessin de Michel-Ange, qui sont des nus à la plume d'après l'antique. Donc la boucle est bouclée, on est parti au Trecento avec des tableaux sur fond d'or, et on arrive donc à la belle Renaissance italienne, à l'époque de Raphaël, de Michel-Ange et de Léonard. On a aussi un dessin très célèbre dans l'exposition, c'est ce qu'on appelle la Joconde nue. C'est l'expression que lui donnait le titre que lui donnait le duc d'Aumale au XIXe siècle. C'est un dessin qu'il a acheté en 1862. Le duc d'Aumale, donc, qui est le fils du roi Louis-Philippe, est alors exilé en Angleterre. Il a hérité de l'immense fortune des Condés. Et il l'achète avec cet argent. Il a dû vendre toutes les propriétés qu'il a en France depuis la Révolution de 1848. Il achète donc des chefs-d'œuvre de l'art français ou de tableaux liés au patrimoine français. Et il apprend qu'un collectionneur français, lui, vit à Londres, qu'un collectionneur français va vendre peut-être au British Museum le dessin préparatoire pour la Joconde. Alors ça, c'est insupportable pour le duc d'Aumale. La Joconde est en France, au Louvre. Il faut qu'il achète absolument ce dessin préparatoire de la Joconde. Donc il va l'acheter sans le voir. Il va l'acheter un prix fou. Il va l'acheter pratiquement le même prix qu'il a acheté l'année précédente, les 363 dessins de Frédéric Rézet. Mais il lui faut à tout prix ce dessin, parce qu'il ne veut pas que ce dessin finisse en Angleterre. Il doit rentrer en France. À l'époque, la devise du duc d'Aumale, c'est « j'attendrai », hein, c'est tout à fait visionnaire. Il attend le retour en France. Il est exilé depuis la Révolution de 1848. Il rentrera effectivement en France en 1871 avec cette extraordinaire collection d'œuvres d'art qu'il a composée, chef-d'œuvre de l'art français, chef-d'œuvre donc liée aux collections françaises. Et cette Joconde nue fait partie des collections. Alors la mauvaise nouvelle, c'est qu'au fil des temps, il se rendra compte lui-même, hein, probablement, que ce grand dessin, qui est tout à fait pictural, hein, il a la taille d'un tableau qui représente une jeune femme en buste avec un sourire mystérieux, c'est tout à fait la Joconde, effectivement, c'est un sourire léonardesque. Et bien malheureusement, ce n'est pas le dessin préparatoire pour la Joconde, c'est plutôt en rapport avec une autre composition de Léonard, ou de l'école de Léonard, qui se trouve à l'Ermitage de Saint-Pétersbourg, qu'on appelle la Monavane. C'est une jeune femme en buste. Et cette jeune femme en buste, on la donne plutôt aujourd'hui à Salai ou à Melzi, qui sont les élèves de Léonard. En fait, c'est un dessin qui est piqué probablement pour le report et qui part du tableau, ou qui est le dessin préparatoire pour ce tableau. Mais en tout cas, il n'y a pas un lien direct avec la Joconde, le tableau célèbre du Louvre, mais avec d'autres compositions léonardesques. En tout cas, c'est un dessin très impressionnant, très étonnant, avec un fond très sombre, qui est probablement aussi une reprise postérieure. C'est un dessin qui a été pas mal trafiqué, mais qui reste une œuvre qui a une présence inoubliable. Alors ce qui est amusant, c'est que cette Joconde nue, elle voisine avec une autre composition importante de Chantilly. C'est un autre buste de femme, nue, celui de la Simonetta Vespucci. Ah,
de Piero di Cosimo.
Voilà, Piero di Cosimo, c'est un peu la Joconde du musée Condé. Hein. La Simonetta, c'est sans doute le plus célèbre de nos tableaux italiens avec nos Raphaëls, puisque Chantilly a la chance d'avoir trois Raphaëls.
Qui vient d'être restauré, donc là encore on peut parler de chef-d'œuvre trouvé.
Tout à fait, tout à fait. Alors la restauration s'est faite grâce aux American Friends de Chantilly, qui nous ont beaucoup aidés pour l'exposition, notamment d'ailleurs en facilitant le prêt du tableau de Philadelphie, du fragment de la Thébaïde de Fra Angelico. Mais au-delà, ils nous ont aidés donc, en facilitant la restauration de ce tableau, qui a été restauré donc, dans les ateliers du Louvre, ces deux RMF, par Cinzia Pasquali, qui avait précédemment restauré la Grande Singerie de Chantilly, qui avait à l'époque été traité en 2007, au moment de la création de la Fondation de Chantilly, et qui a traité également la fameuse Sainte-Anne de Léonard, donc dans les mêmes conditions, dans les mêmes locaux. Donc on lui a confié notre chef-d'œuvre, hein, notre chef-d'œuvre de l'art italien, pour une restauration qui a complètement transformé le tableau, puisque la peinture souffrait de vernis jauni. Il y avait aussi d'anciens repeints qui avaient viré avec le temps, hein. Et donc ce tableau a retrouvé tout son éclat, tout son lustre. On en a profité aussi grâce au talent de Jonathan Grindoche, qui est le restaurateur de support, qui est intervenu dessus, pour sécuriser donc, le revers du tableau. C'est un tableau, donc, comme tous les panneaux de cette époque, qui sont sur des bois tendres, des bois italiens, qui sont sujets aux attaques d'insectes xylophages, hein, les fameuses vrillettes. Donc le panneau avait subi quelques effondrements de la couche picturale, qui avait créé des repeints. Donc on a retiré aussi ces repeints de la couche picturale. Et grâce au talent de Cinzia et de Jonathan, on est arrivé à retrouver le tableau tel que Piero di Cosimo l'avait conçu. Alors on a retrouvé dans la chevelure extraordinaire, dans la coiffure de Simonetta, une perle qui était dissimulée sous les repeints. Que Cinzia a pu dégager, donc c'est un moment quand même inoubliable.
Joyau. Beaucoup d'émotions, j'imagine.
Tout à fait, beaucoup d'émotions. Ça n'équivaudra sans doute jamais l'émotion que nous avons tous ressentie au moment où on a reconstitué la Thébaïde, au moment du montage de l'exposition. Quand les cinq fragments sont réunis.
Alors j'aimerais justement revenir à oui. cette Thébaïde qui est un peu au centre de l'exposition.
Tout à fait. C'est le point de départ en fait.
Alors elle fut peinte vers 1430-1435 par Fra Angelico, un moine dominicain, mais qui était particulièrement attentif aux innovations pictorales de son temps et notamment aux réalisations de Masaccio. J'aimerais vous demander si l'influence de ce dernier, de Masaccio, est déjà visible dans cette œuvre constituée ici à Chantilly.
Oui, sans doute déjà visible, oui. Alors, Fra Angelico a réalisé d'autres Thébaïdes. Hein. On sait qu'il a, un exemple tout à fait proche, qui est aujourd'hui conservé au musée des Offices de Florence.
Et qui semble quand même très différent.
Qui est assez proche. Hein. Et puis, bon, dans le tableau de Chantilly, il y a probablement aussi une intervention de l'atelier. Hein. Vous savez que la notion d'atelier est très importante à l'époque. Hein. Ces artistes ne travaillent pas seuls, ils travaillent avec tout un entourage. Bien sûr, Fra Angelico... frère Angélique, hein. Son vrai nom Guido di Pietro, on l'appelait Fra Giovanni à son époque, c'est une création récente de l'appeler Fra Angelico. Il travaille avec tout un entourage autour de lui, il dirige aussi un scriptorium, il y a des enlumineurs qui travaillent pour lui, qui vont réaliser des livres enluminés. Alors il est ouvert évidemment à toutes ses influences, naturellement, mais il ne travaille pas seul, il n'y a pas que sa main dans ses tableaux. C'est quelque chose qu'il faut comprendre, qui est quelquefois un peu compliqué d'accès pour les contemporains aujourd'hui. On travaille toujours sur la conception de l'artiste unique que nous a légué le 19e. Hein. Mais ce n'est pas du tout ça. Dans ces ateliers, il y a plusieurs artistes qui collaborent avec plusieurs apports. Je pense à un autre chef-d'œuvre de l'exposition, c'est le Cassone de Sandro Botticelli et Filippino Lippi, où il y a le maître Sandro Botticelli qui conçoit la composition. Et puis on a Filippino Lippi à ses côtés qui va réaliser les figures... ou une partie des figures. On pense qu'il y a plusieurs mains. Certains spécialistes disent deux, peut-être trois. Donc vous voyez, c'est une œuvre de collaboration. Donc déterminer des influences, ce n'est pas forcément toujours évident et simple. Et dans l'exposition, pour revenir à Fra Angelico, on présente aussi des enluminures qu'il a lui-même commandées lorsqu'il était prieur de ce couvent.
Alors justement, pour vous parler d'enluminures, on observe dans l'œuvre présentée actuellement au musée Condé, la Thébaïde, un souci de naturalisme associé à un goût du détail et parfois de l'anecdotique, qui est d'ailleurs assez éloigné, à mon sens, des préoccupations artistiques de Masaccio, qui sont beaucoup plus synthétiques. Et alors, ce souci du détail propre à Fra Angelico, finalement, est-ce qu'il trahit l'influence de la miniature à laquelle avait été aussi formé le peintre dans sa prime
sans
jeunesse.
sans doute parce que les scènes sont effectivement assez miniaturisées. La composition du tableau est assez étonnante parce que le fragment central qui est ressorti il n'y a pas tellement longtemps, hein, qui a été vendu aux ventes publiques à Marseille et qui fort heureusement a été acquis par un ami du musée Condé qui tient à rester anonyme mais qui nous l'a prêté, ce fragment central présente des scènes directement liées à la vie des moines bénédictins dans les couvents du Moyen-Âge occidental. Il y a une allusion directe à un célèbre écrit qui est le dit des trois morts et des trois vives, puisqu'on voit trois rois défilant devant trois cercueils, on voit trois personnages morts. Donc c'est évidemment une méditation sur la vie. Bon, c'est un texte qui a traversé tout le Moyen-Âge occidental.
Alors, il y a une originalité qui est soulignée dans l'exposition, parce qu'en fait, cette thébaïde, contrairement à celle qu'on peut observer notamment aux offices, est encadrée par quatre grands saints. Qui sont ces saints et que symbolise ici leur présence, en fait? Qu'apporte-t-elle à l'iconographie de la thébaïde?
Alors, c'est la vie des pères de l'Église, c'est la vie des saints fondateurs, hein, c'est ce qui est évoqué ici. Mais la scène centrale, c'est ce qui est important de noter, c'est la vie de l'ermite, c'est la vie du moine qui travaille son champ, qui est destiné à la mort, bien sûr, d'où cette présence des trois morts et des trois vifs. Et les saints personnages qui sont sur les côtés, effectivement, ne font que relever ce contraste entre la vie du moine dans son couvent, retiré du monde, pratiquant donc une vie saine, une vie agricole, et puis ses pères fondateurs de l'Église.
Et à qui s'adressait-elle? En fait, qui pouvait en être les commanditaires et quelle était sa fonction véritable? Qui voyait cette thébaïde?
Les moines. C'est vraiment destiné aux moines eux-mêmes, c'est destiné à leur enseignement, à leur culture et à leur formation. Ça figurait probablement dans un réfectoire ou dans un couloir qui y menait. Enfin, c'est ce que pensent les spécialistes et ce qu'ils ont développé au catalogue.
Alors, l'exposition contient beaucoup d'œuvres d'inspiration religieuse, donc des retables, des prédelles, une iconographie avant tout sacrée.
Oui, parce que l'art à l'époque est en grande partie sacré. Les commanditaires travaillent surtout pour les églises, commandent pour les églises.
Mais les sujets profanes, pour autant, ne sont pas absents et s'interfèrent même parfois avec les scènes religieuses. On les voit côte à côte. Et montre bien la richesse d'un élan créateur sans précédent, s'attachant à tous les aspects de l'existence, ainsi qu'à toutes les grandes préoccupations intellectuelles du moment. Donc, vous évoquiez les Cassoni tout à l'heure, qui sont présentés dans l'exposition. Alors, il y en a un notamment dans la première salle, qui a été peint par Giovanni del Ponte, qui représente des couples d'amoureux. Alors, que sont-ils? À quelle culture correspondent-ils?
Ils correspondent à cette pratique donc des coffres de mariage où on évoquait c'est l'amour courtois, c'est la belle
société. S'agit-il
de
personnages littéraires ou est-ce qu'on a pu les identifier ou ont-ils été laissés à l'imagination
Je pense qu'il y a une grande part d'interprétation de l'artiste.
Alors, vous avez évoqué aussi l'épisode de l'histoire d'Esther à travers ce coffre dont on a réuni deux éléments et qui donne des exemples en fait de vie pieuse à mener, notamment dans le cadre du mariage. On sait que de grands mécènes à Florence ont participé. Excusez-moi, j'ai été perturbée par là. Est-ce qu'on va, on peut recommencer là?
Pardonnez-moi.
Non, mais c'est pas grave. C'est moi qui. Alors, le renouveau pictural a été rendu possible grâce à de puissants mécènes et protecteurs. Je pense notamment à Côme de Médicis, qui finança la restauration et la décoration à fresque par Fra Angelico du couvent de San Marco. Et de tels protecteurs vont aussi favoriser, là je pense plutôt à Laurent de Médicis, l'éclosion et l'épanouissement de l'humanisme qui prenait en fait un retour à l'idéal antique. Et cette redécouverte de l'Antiquité est particulièrement nourrie de références mythologiques et est visible dans l'exposition. Et on voit bien qu'elle alimente l'imaginaire des artistes et qu'elle voisine en fait dorénavant avec la légende chrétienne. Donc, quelles œuvres présentées dans l'exposition témoignent-elles en fait de cette double inspiration? Quel artiste, je pense notamment à Botticelli.
Alors oui, on a cette grande peinture de Botticelli qui représente une allégorie de l'automne, avec ces petits boutis qui accompagnent cette figure qui n'est pas sans évoquer, bien sûr, la primavera. La figure du printemps de Botticelli, c'est une œuvre majeure, un très grand tableau, provenant d'ailleurs de la collection de Rezé, acquise par le duc d'Aumale. Mais on a aussi des tableaux religieux de Botticelli, et le coffre de mariage provient de l'atelier de Botticelli, dont il aurait conçu la perspective. Alors le Cassone, c'est à la fois des scènes bibliques, puisque vous évoquiez les scènes de l'histoire d'Esther et d'Assuérus, C'est une célèbre anecdote de l'histoire biblique, mais c'est aussi une scène liée à l'amour et au mariage, une histoire qui finit bien, mais une histoire quand même assez tragique, puisqu'on a tous les épisodes de cette histoire qui sont narrés sur les 6 faces du panneau. Nous en avons 2 à l'exposition, donc le panneau qui vient du Louvre et le nôtre. Donc on voit ce roi Assuérus qui donne une réception dans son palais, et qui invite son épouse, la reine Vasti, à le rejoindre, et puis Vasti qui refuse de venir, qui va être répudié, et donc Assuérus va chercher à prendre épouse, et il va choisir bien sûr la plus belle jeune fille de Suse, donc c'est Esther, dont il ignore qu'elle appartient à la nation juive, et donc Esther, sitôt épousée, va devoir prendre parti et empêcher la persécution qui frappe le peuple juif. Donc elle va venir avouer son origine juive devant son époux, en courant la peine de mort, puisqu'elle se présente devant lui, alors qu'elle n'a pas le droit de le faire sans y avoir été invitée. Et bien sûr, il va la gracier, et gracier aussi tout le peuple juif. Donc c'est une extraordinaire histoire, tout à fait dramatique et violente, mais liée aussi à l'amour et au mariage.
Alors pour autant,
je vous en prie.
Pour autant, Botticelli s'attache aussi à dépeindre des allégories mythologiques, et nous en avons un exemple assez extraordinaire dans l'exposition. Je pense à l'allégorie de l'automne.
Oui, dont on vient de parler, oui, l'allégorie de l'automne, qui est cette grande figure de femme avec ses jeunes enfants. Et puis un petit ours, un détail tout à fait étonnant d'un petit plantigrade, d'un petit ours qui dévore une pomme. Il faut voir ce tableau, c'est quelque chose de très impressionnant.
Certaines femmes du temps, particulièrement réputées pour leur beauté, inspirèrent aussi les artistes au point de devenir à leur tour de véritables modèles, on va dire même pour les générations à venir. Donc je pense au portrait de Simonetta Vespucci que vous évoquiez tout à l'heure. Et ce portrait magnifique, d'autant qu'il vient d'être restauré, ne traduit-il pas cette tendance à l'idéalisation, ce désir de s'affranchir du temps historique d'une certaine manière, et un petit peu propre à l'humanisme de cette époque?
On est tout à fait dans le milieu humaniste florentin, du Quattrocento, enfin de la fin du Quattrocento, avec Piero di Cosimo, avec ce portrait de cette jeune femme, donc Simonetta qui épouse donc un descendant de la célèbre famille Vespucci, une famille génoise qui a donné son prénom à l'Amérique, puisqu'Amerigo Vespucci, le nom de l'Amérique, est sorti du prénom de ce noble génois. Simonetta est une des plus belles femmes de son temps, elle sera le modèle de Botticelli d'ailleurs, et elle est aimée de Julien de Médicis, le grand-duc de Toscane. Elle va mourir très jeune, très brutalement, à 23 ans, de tuberculose probablement. Et son ami, c'est un amour platonique apparemment, va commander en souvenir d'elle probablement ce tableau à Piero di Cosimo. Donc c'est un portrait tout à fait étonnant, avec ce buste féminin de profil parfait. Ce buste nu, la poitrine est dénudée, et donc autour du cou, Simonetta apporte un serpent qui se mord la queue. Donc on est dans la philosophie néoplatonicienne, ce serpent, c'est le cycle de l'éternel recommencement, du cycle de la vie, donc qui est indiqué aussi à l'arrière-plan du tableau, puisque derrière Simonetta, il y a un ciel bleu, des arbres feuillus, et devant elle, l'avenir vers lequel elle se dirige, c'est la mort, donc c'est un ciel d'orage, des arbres dépouillés de leurs feuilles, donc qui précise le destin tragique de la belle. Et donc tout ceci est compensé par le message d'espoir qu'est ce serpent de l'éternel recommencement du cycle de la vie. Donc là on est dans la philosophie néoplatonicienne, oui, c'est un tableau qui a toujours été très, très mystérieux. On s'est d'ailleurs longtemps demandé, jusqu'à cette exposition, si l'inscription qui est en bas du tableau, en latin, donc qui indique le nom de Simonetta Vespucci, était un ajout postérieur. On l'a donc fait analyser par les services du Centre de recherche et de restauration des musées de France, là où le tableau était restauré. Et l'analyse faite au Louvre a confirmé que l'inscription est ancienne, donc il s'agit bien de Simonetta, mais l'iconographie est un peu complexe à comprendre de nos jours, et les spécialistes avaient imaginé un temps que ça pourrait être un nom placé a posteriori. En fait, il n'en est rien, c'est bien le nom du personnage. Alors il est vrai qu'il y a un texte de Vasari, le grand peintre et historien d'art, qui à la Renaissance a écrit la vie de ses prédécesseurs, les fameuses vites et les vies des artistes, qui a parlé de ce tableau en disant qu'il avait vu une Lucrèce de Piero di Cosimo, donc évoquant un autre thème.
Un autre thème.
Dû à la présence de l'aspi, bien sûr.
Alors de salle en salle, en fait, c'est véritablement tout un parcours. On se rend compte à quel point l'art a évolué en un siècle, voire en un petit peu plus d'un siècle. Et c'est ça qui est extraordinaire. L'exposition a réellement une dimension didactique, je dirais, et nous montre aussi à quel point l'histoire de l'art est une véritable science qui tâtonne.
Une science qui tâtonne, effectivement, et grâce aux 19 chercheurs qui nous ont entourés, avec l'Institut national d'histoire de l'art aussi, qui a soutenu le projet, avec l'apport éminent de Nathalie Vol, qui est conservatrice générale du patrimoine, qui a trouvé les spécialistes qui, autour de Michel Laclotte, ont étudié les œuvres. On espère avoir apporté un petit peu de neuf à ce projet, mais qui, encore une fois, peut encore évoluer, puisqu'il y a des attributions sur lesquelles on dit clairement ben, on n'est pas sûr, c'est encore une science en devenir. Mais c'est vrai qu'on mesure bien, à travers l'exposition, presque 200 ans d'évolution en fait de l'art, puisqu'on part de tableaux religieux sur fond d'or, sans perspective. On va découvrir la perspective, et puis on va arriver donc jusqu'à la Renaissance, et on termine sur un dessin de Michel-Ange, c'est assez symbolique.
En commençant par l'influence de Giotto, le gothique international qui apparaît finalement tardivement à Florence, c'est assez étonnant ça aussi. Voilà. Eh bien, Nicole Garnier, cette émission s'achève. Merci infiniment de nous avoir guidés dans cet univers du Quattrocento, au-delà même 200 ans d'histoire de l'art, et d'avoir mis en lumière pour nous la richesse de cet élan créateur, à l'œuvre particulièrement à Florence et à Sienne. Merci de nous avoir donné aussi à comprendre combien ces œuvres démantelées, outragées, on peut dire, ont encore à nous dire aujourd'hui, et combien il est important de les voir reconstituées en réalité, ou virtuellement, pour mesurer en fait toute leur splendeur originelle, sinon malheureusement on passe un petit peu à côté. J'invite bien sûr tous nos auditeurs à visiter l'exposition du Musée Condé, Fra Angelico Botticelli, chef-d'œuvre retrouvé, présentée dans les salles de l'ancien Jeu de Paume jusqu'au 4 janvier 2015. Merci à tous de votre attention fidèle et à très bientôt sur Canal Académie.